Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu de ce magazine, l'Afropresse, l'actualité vue par les confrères allemands. Et comme toujours, c'est l'affaire de Philippe Poyan qui est déjà ici dans ce studio. Philippe, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, quels sont les sujets que vous avez retenus cette semaine ?
Eh bien, nous avons retenu deux sujets. Le premier concerne les violences qui ont secoué récemment Bangui, la capitale centrafricaine. Et puis, le second thème, c'est le procès des chefs rebelles hutus rwandais des FDLR. Un procès qui vient de s'achever à Stuttgart après 4 ans dans le sud de l'Allemagne.
Oui, un procès donc, qui a été très bien suivi donc, du côté de la RDC, la République démocratique du Congo. Merci Philippe, restez avec nous et on vous retrouve vers la fin du magazine.
À tout à l'heure.
Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous recevrons tout à l'heure Teddy Mazina, un blogueur burundais. Et avec lui, nous allons bien évidemment revenir sur les sanctions que l'Union européenne a infligées contre donc, des Burundais, jugés comme, considérés comme étant une entrave à la paix dans ce pays. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout le retour sur les principaux sujets qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine. Et nous ouvrons par le Burkina Faso où le général Gilbert Diendéré, le chef des putschistes, auteur du coup d'État avorté du 17 septembre dernier, s'est livré aux autorités de la transition de son pays. Jeudi dernier, le général Diendéré, qui avait, rappelons-le, assuré à plusieurs reprises qu'il se mettrait à la disposition de la justice, avait trouvé refuge mardi chez le représentant du Vatican à Ouagadougou. Écoutez la réaction d'Augustin Loada, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Il était également au palais présidentiel de Kossiam le 16 septembre dernier, lorsque les hommes du général Diendéré sont venus interrompre le Conseil des ministres.
Bon, je peux dire que c'est un soulagement. Cette nouvelle, en tout cas, a libéré, je dirais, des millions de Burkinabés qui attendaient effectivement que le général Fouchi soit remis aux autorités du Burkina Faso. Ça a été fait et, comme je l'ai dit, c'est vraiment un soulagement. Le général Fouchi s'est dépositaire d'un certain nombre d'informations qui sont liées aussi à l'évolution de l'histoire de notre pays. Nous avons hâte de tourner rapidement cette page-là pour continuer à écrire des pages plus belles dans notre histoire, notamment consolider les institutions démocratiques dans notre pays.
Voilà, c'était le ministre burkinabé de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Augustin Loada. Au Burundi, face à la détérioration du climat politique et sécuritaire, l'Union européenne a pris jeudi des sanctions contre trois proches du président burundais Pierre Nkurunziza. Il s'agit entre autres de Godefroy Bizimana, le directeur général adjoint de la police nationale, du chef de cabinet de l'administration présidentielle chargé de la police nationale, Gervais Ndira Kubuka, alias Ndaku Garika, sans oublier Mathias Joseph Niyonzima, alias Kazungu, un agent des services des renseignements. Également visé l'ex-général Léonard Nguendakumana, que l'Union européenne juge responsable d'attaques à la grenade ainsi que d'incitation à la violence. L'opposition et la société civile jubilent et crient victoire. Tassien Sibomana est le porte-parole de l'UPRONA. L'UPRONA, c'est l'Union pour le progrès national, l'aile non reconnue par le pouvoir et dirigée par Charles Ndithijé.
Le monde entier a fait à plusieurs reprises des clins d'œil aux gens du système CNDD-FDD pour dire ne foncez pas trop dans la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Mais malgré tout, les tortures continuent, les enlèvements continuent, les assassinats continuent. On va continuer à demander que ces noms figure sur la liste des personnalités à sanctionner.
Joint par la Deutsche Welle, la présidence burundaise a pris acte de cette mesure prise donc par l'Union européenne. Mais le Burundi reste un État souverain, nous a indiqué Willy Nyamitwe, le conseiller à la communication du président Pierre Nkurunziza. À travers donc ces sanctions, l'Union européenne espère ainsi mettre la pression sur les protagonistes burundais pour renouer avec le fil du dialogue. Catherine Rey est la porte-parole de la haute représentante de l'UE. Elle justifie cette mesure.
L'Union européenne pousse, encourage le dialogue entre toutes les parties, des deux côtés, l'opposition, le gouvernement, de se mettre autour de la table avec des médiateurs pour permettre un retour à la paix du pays, parce que ce sont les Burundais eux-mêmes qui sont les premières victimes de la situation d'instabilité actuelle, de violence. Donc il est important de faire revenir la paix et une solution durable au Burundi rapidement.
Rappelons que les quatre personnes sous le coup des sanctions de l'Union européenne seront interdites de visa et leurs comptes bancaires en Europe seront gelés. Nous terminons ce tour d'horizon de l'actualité africaine par la Guinée. La Guinée qui a fêté le 6e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009. L'ONU a estimé le nombre de personnes froidement assassinées par les forces de sécurité à plus de 150 morts ce 28 septembre 2009. Madame Ba fait partie aussi des familles des victimes de ces massacres.
Quand on me parle du 28 septembre, je me sens terriblement mal parce que l'homme que j'ai perdu, c'était l'homme de ma vie, l'homme avec qui je devrais tout partager. Ce jour, il a la sortie de la maison. Sa destination, c'était pas de partir de stade. Sa destination, c'était pour un baptême. Il est sorti de chez lui pour ne plus jamais revenir. On avait vu son corps à l'entrée du stade, mais son corps a été porté disparu.
Voilà, c'était le témoignage assez émouvant de Madame Ba qui a perdu, donc comme vous venez de l'écouter, son mari le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry. C'est en Guinée.
Le pays va mal, le pays va mal, le pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle depuis nos studios de Bonn en Allemagne. Dans un instant, nous reparlerons du Burundi avec notre invité, le blogueur Teddy Mazina, et c'est dans la rubrique Blogosphère.
Blogosphère.
Teddy Mazina, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous suivez l'actualité dans votre pays, le Burundi. L'Union européenne a adopté ce jeudi des sanctions contre quatre Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Quelle a été votre réaction à l'énoncé donc de ces sanctions?
Écoutez, c'est des sanctions fortement symboliques. Oui, mais tout à fait uniquement pour nous symbolique. Elle stigmatise, elle met le doigt sur des gens qui sont plutôt membres de choses qui apparentent très fortement à des escadrons de la mort, donc des gens qui sont chargés vraiment d'exécution. En plus du général Léonard qui, lui, est dans l'opposition, qui a déclaré que l'opposition comptait jeter des grenades et tout le reste. Donc c'est très important pour, en tout cas, pour que les gens ne continuent pas à poser des actes en pensant qu'ils sont seuls au monde et que le Burundi est juste, que leur monde se limite au Burundi. Le fait que l'Occident ou qu'une organisation mondiale ou européenne pointe le doigt sur des individus, c'est fondamental, au moins pour les victimes ou pour les gens qui sont en danger ou en clandestinité par rapport au risque pour leur vie, au risque de torture, au risque d'exécution que ces gens représentent.
Oui, est-ce que vous pensez que ces sanctions sont suffisantes puisque pour l'heure, seulement 4 personnes ont été sanctionnées? Or, la crise que connaît votre pays, le Burundi, n'est pas seulement le fait de ces 4 individus.
En tout cas, au niveau du Burundi, je pense que les gens pensent que c'est une étape vers vers la responsabilisation, en tout cas des autorités, au niveau de leurs actes. C'est des gens qui sont soit en responsabilité aujourd'hui des services secrets, ou alors des agents eux-mêmes des services secrets ou des services d'État, donc qui relèvent du ministère de la Sécurité publique, qui lui-même relève du président de la République. Donc c'est un doigt pointé sur des actes que certains pensent anodins, ou certains pensent qui vont continuer à vivre comme si de rien n'était, même si nous sommes convaincus que tous ces gens qui ont été nommés n'ont ni de compte en banque, ni et ne voyagent jamais. Des amis à moi rigolaient en disant que ces gens ne vont jamais en renforcement de capacité en Europe. C'est des criminels qui, eux, exercent leur travail et s'exercent sur terrain. Donc, ils ne risquent pas de se retrouver en Europe. Mais c'est symbolique et ça va pousser à une réflexion profonde puisque la liste reste ouverte. Et nous pensons qu'il y a au moins une quarantaine de personnes qui sont directement visées par ce genre de sanctions, mais qu'on laisse une porte ouverte à toute forme de dialogue ou de négociation.
Oui, justement, l'Union européenne pense qu'à travers donc ces sanctions, eh bien, les protagonistes burundais vont renouer très vite avec le fil du dialogue. Teddy Mazina, autre sujet hein, concernant le Burundi, c'est le rapport que Human Rights Watch a rendu public en début de semaine, un rapport qui confirme les assassinats ciblés dans la capitale burundaise. Est-ce que vous pensez vraiment que ces assassinats ciblés vont s'arrêter de sitôt ?
Non, je ne pense pas vraiment. Je pense que les escadrons de la mort sont en train de travailler. Je pense aussi qu'il y a une forme de chasse à l'homme qui est dangereuse, puisque les élans et les soubassements, le parti au pouvoir est réduit aujourd'hui à un groupe de gens qui sont plutôt qui sont sur des affinités ethniques ou alors des logiques de revanche ethnique, avec tous les nouveaux antagonismes qui se font avec le Rwanda, qui lui représente peut-être un pouvoir tout-ci. Donc on a un pouvoir Hutu à Bujumbura, et le problème des exécutions aujourd'hui, c'est qu'elles stigmatisent, elles sont faites par des gens où le CNDD s'est retrouvé finalement avec des groupes de gens, donc les radicaux, les faucons, qui veulent en découdre sur des bases ethniques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le rapport de Human Rights Watch qui va arrêter. Mais aujourd'hui, tout jeune qui circule dans la ville de Bujumbura, tout opposant, risque de se faire arrêter, risque de finir dans une fosse inconnue. Donc là, ce dont Human Rights Watch parle, c'est la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup de gens disparaissent et beaucoup de gens ne sont pas retrouvés. Le Burundi vit sur un fil et embrigadé entre le fait de vouloir maintenir, en tout cas revenir à l'ordre en tuant tout ce qui dit qui lance un message inverse au troisième mandat. Donc nous sommes dans une situation assez dramatique et assez confuse.
Oui, une situation assez dramatique et assez confuse. Nous suivons hein, bien évidemment l'actualité dans votre pays, le Burundi. Merci beaucoup Teddy Mazina d'avoir accepté notre demande d'interview ce soir.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt sur les antennes de la Deutsche Welle.
Merci.
Comme promis, nous retrouvons maintenant Philippe Pognan pour l'Afropresse, l'actualité africaine vue par les éditorialistes allemands. Et on commence, Philippe, comme vous l'avez dit, par les dernières violences qui ont secoué Bangui, la capitale centrafricaine, cette semaine.
En République centrafricaine, l'ordre étatique s'est complètement effondré. Les espoirs de paix et de prochaines élections se sont évaporés. C'est là le constat de la Tageszeitung. Les milices armées de la coalition anti-Balaka, qui l'année passée avait tué ou chassé la plupart des musulmans de Bangui, ont pratiquement pris le contrôle de grandes parties de la capitale, faisant plusieurs dizaines de morts. Plus de 10 000 personnes ont cherché refuge dans les camps de déplacés près de l'aéroport. Le meurtre d'un chauffeur de taxi musulman dans le quartier PK5 a déclenché cette dernière flambée de violence. Des coups de feu ont alimenté la rumeur selon laquelle les anciens rebelles musulmans Séléka auraient lancé une offensive, suite à quoi des miliciens rivaux anti-Balaka se sont rassemblés pour une chasse à l'homme à PK5, un quartier musulman. Pendant plusieurs heures, des musulmans ont été tués sans que les casques bleus de la MINUSCA déployés à Bangui n'interviennent. Selon la mission onusienne, les casques bleus étaient occupés à empêcher que la vague de violence ne s'étende à d'autres quartiers. Les anti-Balaka exigent maintenant le retrait de toutes les troupes étrangères de Bangui et que la sécurité soit assurée par les FAKA, l'armée gouvernementale. Or, souligne le journal, celle-ci n'existe plus. Depuis qu'en mars 2013, le président de l'époque, François Bozizé, avait été renversé par les rebelles musulmans de la Séléka qui, à leur tour, avaient dû en janvier 2014 passer le pouvoir à un régime de transition.
Un régime de transition fortement contesté en ce moment en Centrafrique. Et puis Philippe, à l'issue d'une longue et difficile procédure judiciaire à Stuttgart, ici même en Allemagne, deux chefs de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, ont été condamnés à 13 et 8 ans de prison pour avoir orchestré des massacres en République démocratique du Congo. Un sujet commenté par le même journal berlinois.
Les FDLR sont une organisation terroriste. Les deux accusés sont coupables en tant que leur principal meneur. Cela a été clairement établi par le tribunal. Les objectifs et les actions des FDLR consistaient à perpétrer des crimes de guerre au détriment de la population civile congolaise pour atteindre l'objectif final de la prise du pouvoir au Rwanda. C'est ce que retient l'éditorialiste de la TAT. Pourtant, contrairement à ce que de nombreux défenseurs des droits de l'homme avaient espéré, le président des FDLR, Ignace Mwanashiaka, n'a pas été condamné en tant que chef de troupe ayant commis des crimes en RDC. Or, la responsabilité des chefs hiérarchiques est la base même de tous les procès internationaux jugeant les crimes de guerre, souligne le journal de Berlin, qui critique par ailleurs que le vice-président des FDLR, Straton Mouzoni, a même pu quitter le tribunal en homme libre parce qu'il avait déjà passé les deux tiers de sa peine en préventive. Le journal de Berlin conclut avec une remarque. On peut se demander si un procès d'une telle ampleur pour faire la lumière sur des crimes commis à 6000 km de distance est la bonne solution pour rendre justice dans un tel dossier.
Merci Philippe Poyen pour l'Afropresse et je vous souhaite une bonne fin de week-end.
Bonne fin de week-end à tous.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Afrique 7 jours du dimanche 4 octobre 2015, c'est bientôt fini. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la présentation, c'était Eric Topona. Restez fidèles car les programmes de la Deutsche Welle se poursuivent et à la semaine prochaine.